Le 25 juin 1940, un immense voile noir s'est abattu sur la France. La vérité a déserté notre pays et la France a commencé à vivre dans le mensonge. Et cela pour 4 longues années. Mensonge odieux de la propagande ennemie, attachée à nous nuire par tous les moyens. Mensonge sacré des patriotes qui se révélaient comme l'effet suprême de l'instinct de conservation. Écrire l'histoire de cette période se révèle pour les historiens de l'avenir comme une tâche extrêmement difficile. C'est pourquoi a été créée par le gouvernement la Commission d'histoire de l'occupation et de la libération de la France.
Histoire 2, Patrick Boucheron sur France Inter.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'était le 20 octobre 1944. Et le gouvernement provisoire de la République française n'était pas encore reconnu par les grandes puissances. Il le sera 3 jours plus tard, le 23. C'est que le général de Gaulle n'avait pas souhaité proclamer le rétablissement de la République, puisque, pour lui, celle-ci n'avait jamais cessé d'être. Tel est le mensonge sacré des patriotes qui donne sa majuscule au grand nom de résistance. Comment en écrire l'histoire ? Tâche difficile, assurément, qui doit naviguer entre vérité et mensonge, témoignage et archives, enquête et mémoire. Les historiens du futur, eh bien, c'est nous, aujourd'hui. Le jeudi 11 novembre 2021, Hubert Germain a rejoint le dernier caveau de la crypte du mémorial de la France combattante au Mont Valérien, qui lui était réservé en tant qu'ultime survivant des Compagnons de la Libération. Est-ce à dire que le temps des témoins est terminé et que commence celui des historiens? Pour le comprendre, nous allons nous intéresser à l'avant-dernier compagnon de la Libération, mort il y a 1 an, presque jour pour jour, à 101 ans. Il s'agit de Daniel Cordier. Nous en parlerons avec Laurent Douzou, historien de la Résistance, qui sera rejoint dans la seconde partie de l'émission par Paulin Ismard, dont les entretiens avec Daniel Cordier ont donné lieu en 2013 à ce beau livre de l'histoire, grand H à l'histoire, petit H. Comment l'histoire peut perdre sa majuscule au moment où la Résistance la conquiert? Eh bien, c'est ce dont on parle dans Histoire 2. Laurent Douzou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite d'histoire à l'Université Lumière Lyon 2 et un éminent spécialiste de l'histoire et de la mémoire de la Résistance française, auquel vous avez consacré de nombreux livres et le dernier, Le Moment Cordier, comment écrire l'histoire de la Résistance, qui est paru il y a quelques semaines aux éditions du CNRS, comment écrire l'histoire de la Résistance, ben, ça tombe bien, c'est précisément la question qu'on se pose. Vous montrez notamment dans ce livre que ceux qui commence dès 1944, ce n'est pas un travail de mémoire, mais c'est bien déjà un travail d'histoire.
Oui, je suis très sensible à l'archive que vous avez passée. Le 20 octobre 44, on crée une commission d'histoire d'occupation et de la libération de la France. On a quand même autre chose à faire.
Oui.
Donc c'est très étrange.
Pour les historiens du futur, mais le futur a déjà commencé.
Le futur a déjà commencé. C'est une France quand même détruite. Il y a eu 4 années d'occupation. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Et on, quand même, le pouvoir crée cette commission. Pourquoi ? Parce que on a l'impression que s'agissant d'une histoire clandestine, on n'arrivera pas à l'écrire. Si, très vite, on n'essaie pas de trouver des archives écrites, mais on pense qu'on en trouvera peu, et si on n'essaie pas de faire une vaste collecte de témoignages oraux. Donc c'est ça l'idée, au départ. Et on confie cette tâche à un homme qui est un historien médiéviste à l'époque de très grand renom, qui s'appelle Édouard Perrois.
Ah, si vous pouvez en parler, ça me ferait plaisir.
Alors Édouard Perrois, c'est un homme qui est né en 1901, qui est agrégé d'histoire de géographie en 24, qui ensuite est professeur d'histoire donc médiévale à l'université de Lille, et puis qui prend un congé sabbatique, si j'ose dire, entre 40 et 44, en devenant résistant. Et il est résistant dans la Loire, à Saint-Étienne. Un résistant éminent. Et quand arrive la libération, il accepte d'être mis à disposition de cette commission dont on vient de parler.
La commission d'histoire de l'occupation et de la libération de la France, qui va rejoindre le comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale en 1951.
Donc, il est en fait la cheville ouvrière de luxe, mais de cette commission, et il va réunir autour de lui une toute petite équipe d'historiens et d'historiennes qui vont rassembler quantité de témoignages oraux.
Et il a des méthodes pour ça? Comment il
Alors,
fait
ils ont essuyé les plâtres. C'est-à-dire qu'il a réfléchi. C'est un historien très compétent. Donc, il s'est dit comment on peut être aussi rigoureux que faire se peut. Il a eu l'idée de, bien sûr, de recueillir chaque témoignage in extenso, mais en le reproduisant à la troisième personne. et d'accompagner chaque témoignage d'un petit chapeau introductif destiné à caractériser le témoin. Et ça, c'est très important parce que ça montre sa distance critique. C'est pas quelqu'un qui va recueillir une parole sacrée, c'est quelqu'un qui pense que cette parole est importante, mais que
on peut la critiquer.
Il faut la critiquer. Et je voudrais vous donner un exemple de ça. Le 23 février 1946, il recueille le témoignage d'un résistant et en préambule du témoignage, il écrit ceci. L'entrevue n'a pas été sans une certaine mise en scène. F me reçoit avec un contentement à peine dissimulé par une bonne teinture d'amabilité modeste dans un beau salon Louis X, ouvrant de ses grandes fenêtres sur les quais et le Louvre. Sur une table, au milieu d'autres livres récents, mais bien en évidence, a été jeté négligemment un exemplaire de la guerre de Cent Ans. Il a sans doute été acheté pour l'occasion, car seules les premières pages ont été coupées, mais cette délicate attention ne peut échapper au regard du visiteur-auteur.
Parce qu'Édouard Perrois était l'auteur de cette guerre de Cent Ans, qui a d'ailleurs mis dans sa narration des résistants et des collaborateurs.
Exactement. Et quand on lit bien aujourd'hui, quand on relit l'histoire de la guerre de Cent Ans de Perrois, on voit qu'en préambule, il fait référence à la période de la clandestinité, en disant que ça lui a permis de mieux écrire sur la guerre de Cent Ans.
Donc Édouard Perrois, médiéviste, professeur à la Sorbonne, Lucien Febvre, moderniste, professeur au Collège de France, vont engager ce travail. C'est d'ailleurs assez intéressant parce qu'aujourd'hui l'histoire contemporaine, elle est dominante dans le champ, mais à ce moment-là, elle n'est pas vraiment légitime. Donc on voit d'ailleurs que ce sont des historiens de d'autres périodes qui vont engager cette histoire, mais assez vite, comme vous le montrez dans votre livre, Laurent Douzou, il y a des thèses sur l'histoire de la résistance qui sont travaillées puis soutenues.
Alors je reprends ce que vous avez dit, c'est une histoire foncièrement illégitime au départ. Donc elle doit faire ses preuves. Perrois passe la main en 47 et il la passe à Henri Michel. Henri Michel va présider toutes les études sur la résistance de 1951 à 1978. Et il se désole parce qu'il se rend compte que les universitaires ne veulent pas de thèse sur l'histoire de la résistance. Et plus généralement sur l'histoire de l'occupation. Et donc que va-t-il faire? Il va avoir deux fers au feu. Premier fer, essayer de convaincre des collègues qui ont des chaires dans les universités d'accepter de diriger des thèses. Deuxième fer, recruter des enseignants du second degré qui veulent faire des thèses et dont il va faire des correspondants départementaux du comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est avec ce double dispositif que petit à petit on va voir des thèses s'accomplir. La première vraie thèse en réalité sur l'histoire de la résistance qui est faite par cette génération qui n'a pas été actrice de la guerre, c'est celle de Dominique Veillon en 1975 sur le mouvement Franc-Tireur.
Oui, mais en 1974, il y a un grand colloque qui récapitule ce savoir universitaire, donc 30 ans après la libération de Paris. Et à ce moment-là, donc les universitaires discutent entre eux et quelqu'un se lève pour apostropher ces jeunes historiens. C'est Pascal Copeau qui fut l'un des principaux responsables de la résistance intérieure et s'exclame « Nous avons fait ce que nous avons pu pour construire une cité clandestine, la cité clandestine de l'honneur. Et alors, lorsque nous retrouvons dans vos études, chers jeunes chercheurs, notre cité, elle nous apparaît un peu glacée. » Et n'oubliez pas, leur dit-il en substance, après que les sigles que vous utilisez savamment sont trempés du sang de nos camarades morts au combat. Donc déjà est thématisée, Laurent Douzou, cette opposition entre la cendre froide de l'histoire universitaire et le témoignage, la parole vivante.
Et vous savez, Geneviève de Gaulle, préfaçant un livre d'Elisabeth Ternoir en 1946, disait que ce serait très difficile d'écrire cette histoire-là avec le sang-froid de l'historien.
Oui.
1946. Alors en 1974, l'intervention de Pascal Copeau, elle est très intéressante parce que, vous l'avez dit, ça fait 30 ans qu'on travaille. Les gens qui travaillent ont été pour la plupart des résistants qui se sont mués en historiens ou qui étaient par ailleurs historiens. Or, ce qu'on leur dit 30 ans plus tard, c'est « Vous avez beaucoup de connaissances livresques, vous êtes très érudits, mais c'est pas ça ». Et ça, c'est intéressant parce que ça montre que le problème n'est pas d'avoir été acteur ou non. Le problème est que quand vous êtes historien, vous ne pouvez pas restituer le passé dans sa passion originelle et vous êtes obligé de bâtir des grilles d'intelligibilité. Et ça crée une distance entre la passion avec laquelle les acteurs et les actrices ont vécu et le récit que vous faites. Donc cette opposition-là, elle ne cesse pas en 1974.
Et non, parce que c'est cette opposition-là, l'archive contre le témoignage, qui apparaît dramatiquement le 11 octobre 1977 sur la deuxième chaîne de la télévision française. Les dossiers de l'écran sont consacrés à Jean Moulin. Henri Freinet, le fondateur de Combat, vient de faire paraître un livre où il accuse Jean Moulin d'être un crypto-communiste. Ça fait sortir de ses gonds son ancien secrétaire, Daniel Cordier. Le voilà, nous l'écoutons.
Jean Moulin a servi directement ou indirectement les desseins du Parti communiste.
Tout ce livre est un tissu de contre-vérités et il faut tout de même le dire ce soir.
Alors,
je voulais apporter des documents. On m'a dit que ce n'était pas le lieu. Mais je pouvais apporter un paquet de documents car enfin, c'était mon poste, c'était ma fonction. Parce que, si l'on prend un exemple, vous manipulez toujours les témoignages. Par exemple, Pierre Meunier vous dit que Moulin n'était pas communiste. Immédiatement, vous dites « Ah oui, mais tout de même, il a été directeur du cabinet de Torres et quand on connaît les communistes, etc. etc. » Mais alors, si Moulin était communiste, je suis très étonné qu'il m'ait pris moi, qui étais Action française à ce moment-là.
Oui, je vais répondre. Je ne veux pas vous faire de peine. D'abord, premièrement, je réponds à votre question. Vous avez des tas de documents. Je vous supplie.
Mais je vous les donnerai, mais
non,
je vais les publier.
Attendez, que
mais
nous les étudions ensemble. Et j'affirme de la manière la plus solennelle que si des documents sont opposés aux miens, qu'ils me montrent ce que je ne crois pas, que j'ai été dans l'erreur, de la manière la plus solennelle, je dis que cette erreur, je la reconnaîtrai aussi publiquement, j'ai affirmé mes convictions actuelles. Maintenant, pourquoi vous n'êtes pas au courant? Je suis désolé, je ne veux pas vous faire de peine, mais mon cher Cordier, vous étiez l'intendance.
Mais tout à fait.
Vous étiez l'intendance et les problèmes politiques, c'est pas à vous que j'étais confié. Ils étaient confiés à Manès, Meunier et Chambéron.
Et voilà Daniel Cordier qui sort de ce qu'il appellera plus tard un long silence, celui qu'il avait choisi librement en 1945, qu'il avait 25 ans, donc il pouvait estimer que voilà, la guerre était finie.
Et sa vie commençait.
Et voilà, il avait le droit d'oublier. Et puis aussi, il se souvenait de combien les anciens combattants de 14
avaient rabâché leur guerre.
Et là, lui avait empoisonné sa jeunesse.
Oui.
Mais là, il est obligé de rentrer dans l'arène et c'est ce jour-là qu'il décide de devenir historien. C'est ça, Laurent Dozou.
C'est ce qu'il a dit, je crois qu'il a raison. C'est ce jour-là qu'alors, vous avez vu la violence de l'affrontement.
Ouais.
On dit quand même, ce sont deux compagnons de la libération. Je rappelle qu'ils étaient 1038, donc ils appartiennent à une élite. Alors vous avez vu qu'ils ne se ménagent pas. Traiter Cordier d'intendance, c'est quand même rude.
Et Cordier... Alors c'est un Français libre contre un résistant de l'intérieur.
Voilà, c'est un chef de mouvement contre quelqu'un qui s'occupait du secrétariat de la délégation générale. Donc, vous voyez, il y a vraiment une opposition extrêmement forte. Ce qui est troublant dans cet extrait, c'est que Cordier fait état de documents qu'il détient.
Ce sont ses archives privées.
Alors,
qui vont devenir. Après, c'est difficile de dire si c'est privé ou public.
Ce sont les archives du BCRA qu'il avait avec lui et qu'il a emmené chez lui.
Donc le service de renseignement et d'action clandestine de la France libre.
Voilà. Donc il a ses documents chez lui et c'est ce sur quoi il s'appuie pour réfuter ce que dit Freinet. Freinet soulève tout de même une bonne objection. Ces documents, il faudrait qu'on puisse les lire, les étudier, les travailler ensemble. Et ça, c'est pas une mauvaise objection. Mais Cordier lui dit, je vous les soumettrai. Et c'est ce qu'il a fait ultérieurement.
Et Cordier donc travaille souterrainement, écrira-t-il plus tard, de 1978 à 1983. Il travaille en particulier justement à classer, organiser ses archives. Et c'est justement, on en arrive là, Laurent Dozou, ce grand moment, le moment Cordier, le grand colloque qui se tient le 9 juin 1983 sous l'égide de l'IHTP, dirigé par François Bédarida, où Cordier parle et où les historiens, il y a René Raymond, il y a Claire Andrieux, il y a Jean-Pierre Azéma, le consacre de manière spectaculaire comme un historien qui sort du témoignage et rentre dans l'histoire. Et c'est ça le moment Cordier.
C'est ça le moment Cordier avec une force extraordinaire parce que Daniel Cordier, c'est un acteur qui déclare hautement et fortement que le témoignage doit être récusé et que seule la source écrite est fiable. Venant de lui, c'est un argument très fort.
Histoire 2. Patrick Boucheron sur France Inter.
Dans la deuxième partie de cette émission, nous vous recevons, Paulin Ismar, mais nous vous recevons comme, comme historien de l'Antiquité, comme qu'est-ce que vous venez nous dire en fait?
Oui,
vous
avez historien de l'Antiquité, mais
vous avez un rapport particulier avec cette histoire.
Bah, c'est-à-dire que j'ai bien connu Daniel Cordier parce que j'étais étudiant et en histoire et j'étais fasciné en fait par ce chassé-croisé entre mémoire et histoire dont Laurent Douzou vient de parler. C'est-à-dire cette histoire d'un acteur qui aurait pu être un témoin écrit et qui écrit une histoire contre les témoins. Et puis alors au moment où je l'ai rencontré en 2004-2005, en même temps Alias Caracalla, son livre de mémoire était en gestation, et qui ensuite allait écrire des mémoires, mais cette fois-ci tout en à la suite de ce grand parcours d'historien. Donc c'est des mémoires tout à fait particuliers, c'est ce chassé-croisé qui m'intéresse.
Eh ben on en parle tout à l'heure. Daniel Cordier a décidément eu une vie hors du commun. C'est d'abord celle d'un grand témoin qui devient historien, qui dit « je vais remplacer mon témoignage par des documents afin de transformer mes souvenirs en histoire » et qui redevient témoin de la manière dont il est devenu historien en 2009 avec Alias Caracalla, qui est un livre extraordinaire, entraînant, complexe, mais qui nous fait oublier, Paulin Ismar, que d'abord, et c'est celui-là que vous avez lu jeune, vous nous l'avez dit, Daniel Cordier, c'est l'auteur de ce monumental Jean Moulin, l'inconnu du Panthéon, 3 volumes, 1700 pages, 1989-1993.
Oui, et qui s'arrête à la fin de l'année 1941, en réalité. Oui. Donc, c'est une œuvre monumentale, mais de toute façon, le grand Jean Moulin n'y apparaît pas encore. Et puis, il y a ce deuxième livre, enfin, ce quatrième livre, plutôt, il faudrait dire, qui est un livre, je trouve, formidable, évidemment, qui est Jean Moulin, La République des Catacombes.
En 99.
Voilà, et qui porte à la fois sur Jean Moulin, et plus largement, puisqu'il va jusqu'à la fin de la guerre, sur ce que Daniel Cordier appelait, parce qu'il disait que c'était ça son vrai sujet, c'est pas la résistance en général, c'est ce qu'il appelait la résistance des chefs.
Oui.
Et c'est le rapport entre les mouvements et la France libre, c'est quand même ça qui a été le cœur de son travail.
Et les chefs qui n'étaient pas tendres entre eux, on le comprend bien, Laurent Douzou.
Ah mais il y avait des luttes extrêmement fortes, mais il faut comprendre qu'on était dans la clandestinité, que la rumeur avait cette caisse de résonance, qu'à aucun moment on ne pouvait tranquillement débattre, et que donc, évidemment, les rapports étaient très tendus. Et en plus, on discutait de vraies questions. Et les solutions qu'on apportait engageaient des vies. Donc il n'est pas absolument anormal que ces gens se soient de temps à autre vertement engueulés. Je dirais même que c'est la moindre des choses.
Oui. Mais alors je reviens, Paulin Ismar, sur votre rapport particulier à Daniel Cordier. Vous avez, dans un entretien paru dans Le Monde en 2020, à l'occasion de sa mort, vous avouez d'ailleurs que la rencontre de Daniel Cordier a changé votre vie. Vous vous rappelez qu'en 1993, justement, vous êtes devant la marche du siècle. Vous avez 15 ans avec vos parents. Il y a une émission où Thierry Volleton, qui est un journaliste présente, qui avait écrit un livre infâme, en fait, sur Jean Moulin. Donc on voit que les choses se sont envenimées. Il était traité de crypto-communiste par Henri Freinet. Et là, Volleton le traite d'agent du KGB. Et Daniel Cordier est humilié lors de cette émission. Et ça vous frappe à ce moment-là.
Oui, vous savez, c'est le genre d'émission qu'on regarde et... Moi, je ne comprenais pas très bien, en fait, tout ce qui se passait dans cette émission. Mais
moi, l'émission dont on a parlé, là, celle du dossier de l'écran, j'avais cet âge-là, et j'ai compris que c'était grave, mais j'ai rien compris.
Oui, oui, c'est ça. Mais en même temps, il y avait un dispositif télévisuel qui était très fort, et qui, effectivement, plaçait Daniel Cordier dans une position d'humiliation. Il était, on montrait le travail de Volleton comme si il contenait des révélations que certains auraient voulu dissimuler. Daniel Cordier n'avait pas eu le temps, en plus, de lire le travail de Volleton, et on avait l'impression qu'il n'avait finalement pas compris grand-chose à qui avait été le vrai Jean Moulin. Et ça m'avait effectivement beaucoup beaucoup frappé. Donc je gardais en mémoire cette émission quand ensuite j'ai commencé à lire ses livres et à comprendre son travail d'historien, enfin à essayer de mesurer la spécificité de son travail d'historien, oui, qui me semble quand même très très original.
Parce que vous ne le lisiez pas, contrairement à vous, Laurent Douzou, comme historien de la Résistance.
Bien sûr.
Vous le lisiez comme historien tout court.
Bien sûr, mais c'est une écriture de l'histoire qui est quand même très
Comment
très singulière.
Comment vous la qualifieriez,
mais on vient de le mentionner, hein, ces livres énormes, monumentaux, dans lesquels les documents sont cités
abondamment,
avec ce souci extrêmement pointilleux, extrêmement minutieux de la chronologie. Bon, tout ce que parfois on a qualifié de néo-positivisme, pour parler du travail de Daniel Cordier. Ce qui est parfois, je pense, un terme un peu réducteur.
Qu'est-ce que vous en pensez, Laurent Douzou? Paulin Ismar dit parfois, il a sonorisé l'histoire. C'est-à-dire qu'au-delà de la question du document, du témoignage, il y a une sorte de mise en voix des personnages du passé, très puissante quand même, problématique du point de vue épistémologique,
non, mais très puissante. J'adhère à ça, oui, absolument. Et ces livres sont très puissants. On a parlé des trois premiers, 1700 pages, et on arrive au début de la mission Moulin. Ce qui montre quoi? Qu'il avait la foi du charbonnier, une espèce de rage de tout dire, d'être exhaustif sur tous les éléments. Donc on prend Moulin à sa naissance et on le suit pas à pas, et on ignore rien. Là, il y a quelque chose d'intéressant, parce qu'en effet, c'est assez néo-positiviste, mais parce qu'il sait que Moulin a des ennemis, et il sait que la résistance a des ennemis. Donc il sait que l'enjeu, ça dépasse de beaucoup la seule personne de Moulin. Et donc, il y a une espèce de défense et illustration de ce qu'a été la résistance. Et ça explique, je dirais, la démesure de son travail. Parce que vous avez parlé du quatrième tome paru chez Gallimard, La République des Catacombes. Ça, c'est une synthèse de 1000 pages. Je veux dire, donc, quand Cordier fait une synthèse et vraiment est corseté, il arrive à 1000 pages. Mais en même temps, vous avez absolument raison, il y a un ton Cordier qu'on ne retrouve pas dans les autres ouvrages, et pourtant il y en a des milliers sur l'histoire de la Résistance, qui est à mi-chemin, je dirais, à la confluence de l'histoire et de la mémoire. C'est-à-dire qu'il se sert constamment de ce qu'il a compris de la clandestinité en s'appuyant sur des archives écrites. Donc c'est un amalgame très subtil en réalité. Et le réduire à quelqu'un qui ne comprend que les archives écrites, à mon sens, c'est ne pas comprendre ce qu'il a voulu faire.
On pourrait peut-être citer, de ce point de vue-là, le début de l'Inconnu du Panthéon. Il y a ce passage très beau où il compare la résistance à un orchestre de jazz. Et il dit « Ce passé encore si vivant pour moi m'apparaît maintenant comme l'improvisation d'un orchestre de jazz dont les instruments auraient été perdus et dont une grande partie de l'enregistrement aurait été détruite. Ce passé, qui était parcouru d'enthousiasme brûlant, de dévouement sans calcul, ressemble à un concert joué une seule fois et que les spécialistes s'efforcent de reconstituer avec des bribes de documents ou de témoignages. » Et il ajoute « Seuls ceux qui y auront assisté conserveront dans leur tête la plénitude des improvisations de ce concert, sans être capables, à cause de leurs souvenirs déformés et de leur vocabulaire impuissant, de faire partager leur plaisir, figé à jamais dans leur mémoire solitaire. »
Oui, ça c'est un texte extraordinaire. D'abord, c'est page 303 de l'introduction du volume 1. Oui. Et donc, tout d'un coup, là, il tombe la cuirasse. Et alors qu'il travaille avec une rigueur extrême, il nous dit quoi ? Qu'il n'y a que dans la mémoire solitaire de chaque résistant que cette histoire-là peut authentiquement exister.
Avec l'idée, du coup, que quelque chose ne peut pas se transmettre.
Exactement.
Et ça explique aussi son silence, enfin son long silence.
Et exactement. Justement, quand il rompt ce silence avec Alias Caracalla, enfin, du point de vue de ses souvenirs personnels, est-ce qu'on peut caractériser la forme littéraire de ce livre? Il se décide, au fond, à écrire ses mémoires. Il réinstalle ses souvenirs sur une trame chronologique. Il écrit un roman de formation sous la forme d'un journal, mais qui n'est pas un journal. Qui est un journal reconstitué.
Un faux journal, c'est un journal. Oui, bien sûr.
Comment le caractériser ?
C'est très compliqué, parce qu'il est reconstitué à partir, quand même, des bribes d'un journal qui a existé. Et puis ensuite, il a expliqué comment... Est-ce que, à partir d'une date précise, ou parfois en s'appuyant sur un document connu des historiens, il y avait un travail, une façon de remémoration qui lui permettait de retrouver les sensations d'une journée et même des événements qui auraient pu avoir lieu. Alors c'est très complexe la façon dont Alias Caracalla a été conçu.
Mais la suite de ce livre, la suite d'une certaine manière, vient de paraître de manière posthume sous le titre La victoire en pleurant. Et on comprend que Daniel Cordier a bien écrit des carnets intimes dont quelques extraits sont cités en notes. Mais on ne comprend pas exactement quel est le rapport entre cette réécriture et les carnets. Comment...
Bien sûr, en fait, ce texte, c'est plutôt les chutes de ce qui aurait pu être la suite d'Alias Caracalla. Parce que quand Daniel Cordier a travaillé sur Alias Caracalla, son idée au départ, c'était d'aller jusqu'en janvier 1946. Et puis, le travail aurait été à nouveau titanesque, constamment reporté. Donc Alias Caracalla s'est limité à la période qui va jusqu'en juin 1943. Mais il restait ces fragments.
Ces chutes, oui.
Ces chutes. Et qu'il était intéressant quand même d'éclairer par des éléments des carnets de Daniel Cordier, parce qu'ils permettent un petit peu d'entrevoir la façon dont il a pu travailler pour certaines périodes, où les carnets intimes, avec des dates très précises, sont, de toute façon, offrent la matrice du développement ensuite de...
Alors vous connaissez ça parfaitement, Paulin Ismar, je le rappelle, parce que pendant 15 ans, vous avez rencontré Daniel Cordier, vous l'avez fait parler, et ses entretiens sont parus en 2013, sous justement le titre dont on parlait, de l'histoire à l'histoire, ce qui vous rend sensible à cette question des rapports entre histoire et témoignage dont on parlait, Laurent Douzou. Viennent de paraître aux éditions du Félin, dans une édition critique très soignée, les mémoires d'un chef de la résistance de Jacques Le Comte Boinet, qui d'une certaine manière, Le Comte Boinet, arrêtez-moi si je dis une bêtise, oui. C'est un fonctionnaire de la préfecture de la Seine qui rejoint le mouvement de libération nationale de Henri Freinet en zone sud, avant de créer son propre réseau, cette fois-ci en zone occupée, le ceux de la résistance. Donc c'est un des fondateurs du CNR, et ses mémoires, pareillement, n'en sont pas vraiment. C'est ce qui les rend intéressantes, c'est un texte qui combine témoignages et journaux tenus à Alger, Londres, Paris, en 43-44, c'est bien ça, Paulin ?
Oui, ce qui est très intéressant, c'est que il y a un journal qui a été écrit en 1943, en 1944, en partie à Paris, mais aussi à Londres, à Alger, et en même temps, il y a des mémoires que Le Comte Boinet a écrit juste après la guerre, en 1946, à destination des historiens. Mmh. Et il y a aussi toute la question de ce dialogue que Le Comte Boinet a eu avec Marie Granet, avec Henri Michel, des historiens qui sont venus le voir dans les années 50. Bon, et donc le texte, qui est un texte vraiment passionnant, très très long, hein, 1000 pages, et à la fois ces mémoires écrites en 1946 et ce journal de 1943-44 que le comte Boynet a révisé ensuite en 1946. Alors, ça donne lieu donc à ce livre qui est vraiment un livre passionnant, qui a été édité par Bruno Leroux et qui appartient à cette collection. Il faut saluer quand même le travail de ce point de vue-là des éditions du Félin. Oui. Cette collection Résistance, Liberté, Mémoire, qui fait un grand travail de transmission de toute cette mémoire résistante.
Oui, Laurent Douzou, vous vouliez ajouter quelque chose?
Non, je voulais dire que les mémoires de Lecomte Boynet, c'est encore un peu plus complexe que Cordier. Et que sans le travail de Bruno Leroux, qui a bâti tout un appareil critique extraordinairement élaboré, c'est inintelligible. Quand on n'a pas ces éléments. Mais que grâce à ce travail, on peut les lire et on comprend ce qui se passe. Mais il y a effectivement ce va-et-vient constant entre l'histoire qu'il a vécue et sur laquelle il a pris des notes et l'histoire telle qu'ensuite il se l'est remémorée. Et donc, il y a un va-et-vient mais qui au fond n'est pas si original que ça. Je veux dire que la plupart des résistants ont connu ce phénomène. Quelques-uns avaient des notes, beaucoup n'en avaient pas et Ils ont construit un bric-à-brac, le terme n'est pas négatif, mais c'est comme ça, qui constituait une mémoire composite.
Daniel Cordier, vous l'avez dit, l'un et l'autre écrivaient l'histoire de la résistance des chefs, et on le comprend bien en l'écoutant raconter son entrée dans la résistance.
La France est envahie, nous sommes vaincus, contre toute attente, et... ma réaction, c'est une réaction épidermique. La France ne peut pas être vaincue. Ah, vas-y. D'abord, j'ai été très déçu de ne pas trouver l'équipe d'action française à Londres. Maurras en tête. Ce qui me paraît rétrospectivement étonnant, c'est qu'il n'y ait pas eu 40 millions de Français qui se retrouvent en Angleterre, quitte à enfoncer l'Angleterre sous la mer. Mais à cette époque, je n'ai qu'un objectif, c'est la victoire.
Oui, parce que ça fait la deuxième fois qu'il y est fait allusion. Daniel Cordier était Action française, maurrassien, et c'est en tant que tel qu'il rejoint la France libre en se faisant de la résistance, avec un grand R, justement, une conception très très élitiste, on l'entend bien ici. Mais les nouvelles tendances de l'histoire de la résistance, Laurent Douzou, tendent au contraire, depuis notamment les travaux de Pierre Laborie, à élargir l'anthropologie de l'expérience clandestine. On est désormais plus attentif aux femmes, aux réseaux, aux formes plus discrètes de résistance qui, peut-être, elle aussi, doit baisser la casse et abandonner sa majuscule.
C'est-à-dire qu'on revient au début de notre émission. On a commencé par travailler sur des objets qui étaient possibles, et c'était les organisations de résistance. Parce qu'il y avait des homologations, il y avait des liquidations, on avait des dossiers, pas beaucoup, mais on en avait. Donc on a fait l'histoire des mouvements et des réseaux de résistance. Les réseaux très peu, les mouvements beaucoup. Et puis petit à petit, on s'est intéressé à la résistance comme mouvement social. C'est-à-dire pas seulement les organisations, mais qu'est-ce qui permet aux organisations de ne pas dépérir, puis qui leur permet de recruter, puis qui leur permet ensuite de jouer un vrai rôle. Ça n'est possible que si on pense la résistance dans un mouvement beaucoup plus large. C'est-à-dire une petite élite de résistance, c'est toujours une minorité, mais qui peut s'appuyer sur une population qui, de façon croissante, soutient cette résistance.
L'histoire de la résistance, décidément, c'est un laboratoire du mélange des genres, de l'hybridation des récits. Voilà que paraît une magnifique bande dessinée des vivants de Raphaël Metz, Louis Moati et Simon Roussin aux éditions 2024. Je voulais l'évoquer pour terminer ce dialogue, Laurent Douzou et Paulin Ismar. C'est une épopée puissante qui est fondée sur une enquête historique rigoureuse sur l'un des premiers réseaux de résistance en France, hein, celui du Musée de l'Homme. Et ce sont des personnages qui sont bien réels, leurs paroles sont sourcées, c'est une des premières BD avec des notes qui sont pas en bas de page mais en fin de volume. Et on peut ainsi apprendre la provenance des dialogues, extraits d'archives ou de témoignages. Et je voulais terminer par ça, parce que d'une certaine manière, c'est aussi le début, comme vous l'avez dit, Laurent Douzou. L'histoire commence et s'achève par une magnifique phrase de l'ethnologue Germaine Tillon. « J'ai répété ce que j'ai entendu, l'histoire est finie ». C'est ainsi que s'achevaient toujours les contes Chaouya qu'elle avait collectés dans les Aurès. Et en fait, grâce aux notes, on apprend que la formule exacte des conteurs était « J'ai répété ce que j'ai entendu, l'histoire est finie ». Mais non pas le blé et l'orge. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient si pauvres, ces conteurs, qu'ils craignaient toujours qu'une parole imprudente ou inexacte ne vienne compromettre les récoltes. Ce qui est, d'une certaine manière, une précaution que les historiennes et les historiens ont, je crois, toujours dans l'oreille.
Oui, je crois que c'est vraiment une très très belle image.
Merci Laurent Douzou, merci Paulin Ismar. Cette émission a été préparée par Ophélie Vivier et réalisée par Xavier Pestugia. La technique était assurée aujourd'hui par Florian Dorimini. Vous retrouverez toutes les références bibliographiques, et elles étaient nombreuses, sur le site de France Inter, à la page de notre émission. La semaine prochaine, nous parlerons des scandales sexuels dans l'Église catholique avec Céline Béraud et Arnaud Fossier. Bon dimanche sur France Inter.